L'Europe de l'Est, un laboratoire de la désillusion post-communiste. Venons-en maintenant au cas des sociétés communistes et post-communistes d'Europe de l'Est. L'empreinte du communisme y est certes moins forte qu'en Russie, d'une part parce que l'expérience a été moins longue, et d'autre part car leur niveau de développement était dans la majorité des cas sensiblement plus élevé que celui de la Russie au moment de rejoindre le communisme. Par ailleurs, les pays communistes est-européens de la période 1950-1990 ont, pour la plupart, rejoint l'Union européenne au cours des années 2000-2010. Cette intégration à un espace économique et politique prospère a favorisé un certain rattrapage des niveaux de vie et une forme de stabilisation politique dans le cadre de régimes électifs de type parlementaire. Il reste que ce processus a également généré des frustrations et des incompréhensions de plus en plus fortes à l'intérieur de l'Union européenne, qui font de l'Europe de l'Est un véritable laboratoire de la désillusion post-communiste. Commençons par les aspects les plus positifs. Il est tout d'abord particulièrement frappant de constater que si l'on mesure les inégalités de revenus à l'échelle de l'ensemble de l'Europe, Ouest et Est réunis, alors le niveau obtenu est certes plus élevé que si on se limite à la seule Europe de l'Ouest, mais il demeure sensiblement plus faible qu'aux États-Unis. Ainsi, entre 2005 et 2010, la part des 10% les plus riches avoisine les 28-30% du revenu total en Europe, Ouest et Est réunis, quand elle atteint les 45% aux États-Unis. Voir graphique 12.9. Les écarts de revenus moyens entre les États membres les plus pauvres et les plus riches de l'Union européenne, par exemple entre la Roumanie ou la Bulgarie et la Suède ou l'Allemagne, restent certes considérables, plus élevés par exemple qu'entre États des États-Unis d'Amérique, mais ils se sont réduits, et surtout, les inégalités à l'intérieur des États européens, à l'Est comme à l'Ouest, sont suffisamment plus faibles qu'à l'intérieur des États états-uniens pour que l'inégalité totale soit plus faible en Europe. En particulier, la part des 50% les plus pauvres avoisine les 20% du revenu total en Europe, contre à peine 12% aux États-Unis. En outre, il faut préciser que cet écart serait encore plus fort si l'on intégrait le Mexique et le Canada avec les États-Unis. Une telle comparaison serait sans doute davantage justifiée, d'une part parce que les populations totales des deux ensembles seraient ainsi plus proches, et d'autre part parce que les pays d'Amérique du Nord sont également liés par une union commerciale, avec toutefois une intégration socio-économique et politique plus limitée que l'Union européenne, qui finance des fonds structurels d'investissement en faveur des régions les moins avancées et pratique la libre circulation des travailleurs, ce qui paraît impensable, à ce stade, au sein de l'ensemble nord-américain. Que les inégalités de revenus soient moins fortes au sein des ex-pays communistes d'Europe de l'Est qu'aux États-Unis ou en Russie post-soviétique s'explique par plusieurs facteurs, et notamment par l'existence en Europe de l'Est de systèmes d'éducation et de protection sociale relativement développés et égalitaires issus de la période communiste. Il faut aussi souligner que la transition post-communiste a été menée de façon moins inégalitaire et plus gradualiste qu'en Russie. Par exemple, en Pologne, pays pourtant classé avec la République tchèque parmi ceux ayant opté pour la thérapie de choc au début des années 1990 au sein des pays d'Europe centrale et orientale, la transition a été en réalité nettement plus graduelle et apaisée qu'en Russie. Le système polonais de voucher privatization s'est certes appliqué dès 1990-1992 aux petites entreprises, en particulier dans le commerce et l'artisanat, mais son extension aux grandes entreprises n'a véritablement commencé qu'en 1996 et s'est fait progressivement à mesure que le nouveau système légal et fiscal entrait en fonction, ce qui a permis de limiter dans une certaine mesure les concentrations d'actions au sein d'un petit groupe d'oligarques à la russe. Le report des privatisations des grandes entreprises, initialement prévu pour être réalisé rapidement suivant la loi de 1990, découla notamment de vives oppositions venant du syndicat Solidarnosc, davantage que de l'ancien Parti communiste transformé en Parti social-démocrate, SLD, et revenu au pouvoir lors de la transition. Selon des travaux récents, ce gradualisme a contribué au succès de la transition polonaise et à la forte croissance observée entre 1990 et 2018. Les réussites des trajectoires post-communistes en Europe de l'Est, incontestables si l'on prend comme point de comparaison la dérive oligarchique et kleptocratique russe, doivent toutefois être relativisées. Tout d'abord, même si elles n'ont pas connu la même explosion spectaculaire qu'en Russie, les inégalités ont fortement progressé dans tous les pays d'Europe centrale et orientale. La part du revenu national allant aux 10% les plus riches était inférieure à 25% en 1990 et elle avoisine en 2018 les 30-35% en Hongrie, en République tchèque, en Bulgarie et en Roumanie, voire 35-40% en Pologne. La part, allant aux 50% les plus pauvres, a baissé dans des proportions similaires. L'ampleur du rattrapage des niveaux de vie sur l'Europe de l'Ouest doit également être ramenée à ses justes proportions. Le revenu moyen en vigueur dans les pays d'Europe de l'Est, exprimé en parité de pouvoir d'achat, est certes passé d'à peine 45% de la moyenne européenne en 1993 à environ 65-70% en 2018. Mais compte tenu de la chute de la production et des revenus constatée lors de l'effondrement du système communiste en 1989-1993, le niveau observé à la fin des années 2010 reste au final très éloigné de l'Europe de l'Ouest et peu différent de celui des années 1980, environ 60-65%, autant que les statistiques disponibles permettent d'en juger. Ces résultats socio-économiques en demi-teinte permettent de mieux comprendre les sentiments de frustration et d'incompréhension qui se sont développés au sein de l'Union européenne au cours des années 2000-2020. L'euphorie consécutive à l'intégration dans l'Europe a rapidement laissé la place à la déception et aux récriminations. Pour les Européens de l'Ouest de l'Union européenne, les citoyens de l'Est de l'UE n'ont aucune raison de se plaindre. Ils ont notamment bénéficié de leur arrimage à l'UE, qui les attirait du mauvais pas où ils s'étaient placés à la suite de leurs errements communistes, sans compter qu'ils ont reçu et continuent de recevoir de généreux transferts venus de l'Ouest de l'Union. De fait, si l'on examine la différence entre les dépenses reçues, notamment au titre des fonds structurels d'investissement, et les contributions versées, telles qu'enregistrées très officiellement par l'Office statistique de l'UE, Eurostat, on constate par exemple que des pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie ont reçu des transferts nets compris entre 2 et 4% de leur PIB entre 2010 et 2016. Voir graphique 12.10. À l'inverse, les principaux pays ouest européens, à commencer par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont versé au cours de cette même période des transferts nets de l'ordre de 0,2-0,3% de leur PIB, transfert dont l'évocation par les partisans du Brexit a d'ailleurs joué un rôle considérable outre-Manche lors de la campagne référendaire de 2016. Compte tenu d'un tel accès de générosité, on comprend mal en Europe de l'Ouest la frustration et la rancœur qui s'expriment à l'Est, parfois sous la forme de l'élection de gouvernements nationalistes en rupture ouverte avec Bruxelles, Berlin et Paris, notamment en Pologne et en Hongrie. Dans la partie Est du continent, les perceptions sont totalement différentes. On considère souvent que la stagnation des revenus s'explique parce que les pays périphériques d'Europe de l'Est ont été placés par les puissances dominantes de l'UE dans un état de subordination économique permanente, et leurs habitants continuent d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Concrètement, une vision très répandue à Varsovie, à Prague ou Budapest est que les investisseurs venus de l'Ouest, les Allemands et les Français notamment, se sont servis des pays de l'Est comme d'un réservoir de main-d'œuvre à bon marché, où ils ont réalisé d'immenses profits. De fait, après l'effondrement du communisme, les investisseurs occidentaux sont graduellement devenus propriétaires d'une part considérable du capital des ex-pays de l'Est. Environ un quart, si l'on considère l'ensemble du stock de capital, immobilier inclus, et plus de la moitié si l'on se limite à la détention des entreprises, et plus encore pour les très grandes entreprises. Les travaux éclairants de Philip Novokmet ont ainsi montré que si les inégalités ont moins fortement progressé en Europe de l'Est qu'en Russie ou aux États-Unis, c'est largement parce qu'une bonne partie des hauts revenus issus du capital est européen sont versés à l'étranger. À l'image d'ailleurs de ce qui se produisait avant le communisme avec des détenteurs du capital qui étaient déjà allemands, français ou autrichiens. Au fond, Il n'y a guère que pendant la période communiste que l'Europe de l'Est n'était pas possédée par des propriétaires venus de l'Ouest. Elle était toutefois sous l'emprise militaire et politico-idéologique de son grand voisin russe, situation encore plus pénible et à laquelle personne ne souhaite revenir. De ces choix cornéliens découle sans doute un certain désarroi. Les conséquences de ces détentions patrimoniales transfrontalières en termes de flux de revenus sont loin d'être négligeables. Les comptes nationaux indiquent en effet que les flux sortant de profits et autres revenus de la propriété, intérêts, dividendes, etc., nets des flux entrants correspondants, étaient compris entre 4 et 7% du PIB en moyenne entre 2010 et 2016 dans les différents pays d'Europe de l'Est, soit un niveau sensiblement plus élevé que les transferts en provenance de l'Union européenne, aussi bien pour la Pologne et la Hongrie que pour la République tchèque et la Slovaquie. De la naturalisation des forces de marché en Union européenne. Cette comparaison entre les deux flux n'implique certes pas que l'intégration européenne ait été une mauvaise affaire pour l'Europe de l'Est, contrairement à ce que tentent parfois d'accréditer certains dirigeants nationalistes. Les flux sortant de profits sont en effet la contrepartie d'investissements réalisés dans ces pays, et parfois aussi de privatisations avantageuses, qui, en toute logique, ont pu contribuer à l'amélioration de la productivité d'ensemble et donc du niveau des salaires en Europe de l'Est. Il reste que les progressions salariales ont été bien plus limitées que celles qui étaient espérées, en partie du fait du pouvoir de négociation des propriétaires occidentaux, qui peuvent menacer de retirer leurs capitaux en cas de rentabilité insuffisante, ce qui leur a permis de comprimer les hausses promises. En tout état de cause, l'ampleur des flux en jeu implique que la question mérite d'être posée. De façon générale, le niveau exact des salaires et des profits ne tombe pas du ciel. Il dépend notamment des institutions et règles sociales et syndicales en vigueur dans chaque pays, ainsi que des régulations légales et fiscales mises en place ou non au niveau européen, d'autant plus importante qu'il est difficile pour un petit pays d'influer seul sur les mécanismes de fixation des salaires. La question est particulièrement pertinente dans un contexte historique où la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises manifeste une tendance à la baisse au niveau européen et mondial depuis les années 1980-1990, et la part des profits, une tendance symétrique à la hausse, phénomène qui peut en partie être attribué à l'évolution du pouvoir de négociation des actionnaires et des syndicats. Concrètement, des institutions collectives et des règles fiscales et salariales européennes différentes auraient pu conduire, et pourraient conduire à l'avenir, à des salaires plus élevés en Europe de l'Est et donc à une réduction significative des flux de profits sortants, avec potentiellement un impact macroéconomique important du même ordre que les flux entrants en provenance de l'Union européenne. La question peut donc difficilement être évacuée a priori. Il est peu contestable que les pays d'Europe de l'Ouest ont tiré des bénéfices commerciaux et financiers substantiels de l'intégration de l'Europe de l'Est dans l'Union européenne. Cela vaut notamment pour l'Allemagne, compte tenu de la situation géographique et de la spécialisation industrielle du pays. Par conséquent, la question du partage des gains qui en ont résulté est légitime et importante, d'autant plus qu'ils ont contribué à la formation d'un excédent commercial allemand de dimension inédite. Les flux d'exportation et d'importation étaient à des niveaux similaires en Allemagne et en France jusqu'aux années 1990, autour de 20-25% du PIB, avant de doubler en Allemagne au cours de la période 1995-2015, 40-45% en 2015, et de connaître une progression plus modérée en France, 30% en 2015, et plus conforme à l'évolution mondiale générale. Du point de vue des puissances dominantes du continent européen, et en particulier de l'Allemagne et de la France, on a pourtant tendance à ignorer entièrement cette question des flux de profits privés sortant d'Europe de l'Est. Implicitement, on part du principe que le marché et la libre concurrence conduisent à une répartition juste des richesses, et on considère les transferts réalisés à partir de cet équilibre naturel comme un acte de générosité de la part des gagnants du système, d'où une vision entièrement centrée sur les transferts publics. En réalité, les relations de propriété et de production sont toujours plus complexes, surtout au sein de communautés humaines de grande taille comme l'UE, et ne peuvent être régulées par la seule grâce du marché. L'équilibre de marché n'a rien de particulièrement naturel. Il dépend toujours d'institutions et de règles particulières, issues de compromis socio-historiques spécifiques, et en particulier du système légal, fiscal et social, du droit du travail et des entreprises, et du pouvoir de négociation des salariés. Le fait que l'UE soit fondée principalement sur la libre circulation des capitaux et des biens et la mise en concurrence des territoires, quasiment sans aucune politique fiscale et sociale commune, a inévitablement un impact sur la fixation du niveau des salaires et des profits, et en l'occurrence, tend à avantager les acteurs les plus mobiles, donc les investisseurs et les propriétaires, plutôt que les salariés. Cette tendance des acteurs économiques dominants à naturaliser les forces de marché et les inégalités qui en résultent s'observe d'ailleurs fréquemment, aussi bien à l'intérieur des pays qu'entre les pays. Ceci est particulièrement frappant au sein de l'Union européenne et a conduit au cours de la période 1990-2020 à des malentendus et des incompréhensions lourdes menaces pour le projet européen, non seulement entre l'Est et l'Ouest du continent, mais également entre le Nord et le Sud, à la faveur de la crise de la dette de la zone euro et de la vague spéculative sur les taux d'intérêt. Le traité de Maastricht, qui avait fixé en 1992 les règles de fonctionnement de la monnaie unique, n'avait pas jugé utile d'engager l'unification des dettes publiques ou des fiscalités. Le compromis noué entre les différents pays avait consisté à repousser à plus tard ces questions politiques complexes et à se concentrer sur de simples règles de déficit à ne pas dépasser et surtout sur la composition et les pouvoirs de la Banque Centrale Européenne, BCE, puissante institution fédérale prenant ses décisions à la majorité simple. Lors des premières années suivant la création de l'euro en 1999, l'hypothèse était naturellement que la monnaie unique était là pour durer. Fort logiquement, les taux d'intérêt étaient quasiment identiques pour tous les États membres de la zone euro. Entre 2002 et 2008, les taux sur la dette publique à 10 ans étaient d'environ 4% par an, aussi bien pour l'Allemagne et la France que pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la Grèce. Cette situation, peu surprenante par temps calme, n'allait pas résister longtemps. De fait, à mesure que s'approfondissait la crise financière déclenchée en 2007-2008 par l'effondrement des subprimes et la faillite de Lehman Brothers, et après que la BCE elle-même contribua à créer la panique autour de la dette grecque, de fortes divergences sur les taux d'intérêt commencèrent à apparaître. Les taux demandés aux pays jugés les plus sûrs et les plus solides, en particulier l'Allemagne et la France, s'abaissèrent à moins de 2% par an, alors que ceux exigés de l'Italie et de l'Espagne montèrent à 6%, et même 12% pour le Portugal et 16% pour la Grèce en 2012. Comme toujours avec les marchés financiers, de tels mouvements spéculatifs prirent une dimension autoréalisatrice extrêmement forte. À partir du moment où l'on anticipe qu'un pays va devoir payer à l'avenir des intérêts aussi élevés sur sa dette, cela le met très rapidement dans une situation d'insolvabilité potentielle, ce qui renforce la détermination des opérateurs à exiger un taux d'intérêt élevé. Compte tenu de l'ampleur inédite prise par la financiarisation de l'économie et les capitaux spéculatifs, qu'il serait d'ailleurs sage de réguler beaucoup plus strictement, seule une action déterminée des banques centrales et des pouvoirs publics peut apaiser de tels mouvements de panique. C'est ce qui arriva à partir de 2011-2012, quand la BCE et les dirigeants franco-allemands finirent par comprendre qu'il n'existait pas d'autre option pour sauver l'euro. Cette réaction tardive ne permit pas d'éviter une lourde récession en Grèce et dans les pays du sud de l'Europe, et plus généralement une rechute de l'activité économique en zone euro. Compte tenu de cette rechute de 2011-2012, il faut attendre 2015 pour que la zone euro retrouve son niveau d'activité économique, PIB, de 2007, à un moment où les États-Unis, pourtant à l'origine de la crise, l'ont déjà dépassé de plus de 10%, et 2018-2019 pour qu'elle retrouve son niveau de PIB par habitant. Je reviendrai plus loin sur cette évolution récente du rôle des banques centrales et sur leur place dans le monde hyper-financiarisé actuel, question qui va bien au-delà du cas de la zone euro. À ce stade, je veux simplement préciser que cette intervention tardive s'accompagna d'un nouveau traité budgétaire durcissant les règles sur les déficits et d'un fonds européen abondé par les États membres en proportion de leur PIB, permettant de prêter aux pays attaqués par les marchés. Concrètement, ce fonds, permis de faire en sorte que les pays européens les plus riches, à commencer par l'Allemagne et la France, puissent prêter de l'argent à la Grèce, à un taux certes inférieur à celui exigé par les marchés financiers, qui étaient alors mirobolants, mais nettement supérieur à celui, quasi nul, auquel les deux généreux prêteurs empruntaient eux-mêmes sur les marchés. De la même façon qu'avec les flux de profits sortant d'Europe de l'Est, ces opérations aboutirent à deux lectures diamétralement opposées des événements. En Allemagne et en France, on s'imagine souvent que l'on a aidé les Grecs. On prend comme référence les prix de marché, donc ici les taux d'intérêt, et on considère toute déviation par rapport à cet équilibre comme un acte de générosité. En Grèce, la lecture est très différente. On y voit surtout une juteuse marge financière réalisée par les franco-allemands, tout cela après avoir imposé une lourde purge au pays, avec à la clé une montée en flèche du chômage, notamment pour les plus jeunes, et une grande braderie d'actifs publics à bas prix. La vision consistant à sacraliser les prix de marché et les inégalités qui en découlent a le mérite de la simplicité et d'éviter les incertitudes pandoriennes déjà évoquées à de multiples reprises. Elle a aussi et surtout un intérêt évident pour les acteurs les plus puissants. Elle témoigne cependant d'un égoïsme à courte vue. Comme l'avait déjà noté Polanyi dans « La grande transformation », les marchés doivent être encastrés socialement et politiquement, et leur sacralisation ne peut conduire qu'à exacerber les tensions nationalistes et identitaires. Cela vaut particulièrement pour le marché du travail et le marché de la monnaie, et pour les prix qu'ils mettent sur les salariés et sur les pays. Les jeunes Grecs ou les jeunes Hongrois ne sont pas plus responsables du taux d'intérêt de marché et des dettes de leur pays que les jeunes Bavarois ou les jeunes Bretons des intérêts qu'ils touchent. Si l'Europe n'a rien d'autre à offrir que des relations de marché, il n'est pas sûr que l'ensemble tienne éternellement. À l'inverse, si les Grecs, les Hongrois, les Bavarois et les Bretons étaient considérés comme faisant partie d'une même communauté politique, disposant des mêmes droits pour délibérer et mettre en place des règles sociales, légales et fiscales communes, concernant par exemple la fixation des salaires, l'impôt progressif sur les revenus et les propriétés, etc., alors il serait envisageable de dépasser ces clivages identitaires et de les redéfinir sur une base socio-économique post-nationale. Je reviendrai plus loin sur les traités européens et la possibilité de les refonder sur une base réellement démocratique et sociale, de façon à pouvoir développer des normes de justice acceptables pour le plus grand nombre. Le post-communisme et le piège social-nativiste. Revenons-en finalement à la situation politico-idéologique spécifique qui caractérise l'Europe de l'Est post-communiste, en particulier pour ce qui concerne la montée du social-nativisme. Il ne fait aucun doute qu'il existe une forme générale de désillusion qui frappe l'ensemble des pays post-communistes face à la question des inégalités socio-économiques et de la redistribution, et plus globalement face à la question de la régulation et du dépassement du capitalisme. En Europe de l'Est, comme en Russie ou en Chine, on considère avoir fait les frais des promesses inconsidérées des divers révolutionnaires communistes et socialistes du passé, et on est généralement sceptique envers tous ceux qui pourraient donner l'impression de verser de nouveau dans des chimères du même type. On peut certes regretter que ce type de réaction manque parfois de finesse et de précision, et tende à mélanger des expériences historiques fort différentes. Ainsi que nous l'avons déjà noté, même si le soviétisme russe a échoué dramatiquement, cela ne change rien au fait que la social-démocratie suédoise a été un grand succès, et il est regrettable que la Russie post-communiste, ou d'ailleurs l'Europe de l'Est, n'ait pas cherché à mettre en place des institutions de type social-démocrate, plutôt que de se lancer dans une dérive oligarchique et inégalitaire. Il reste que ce sentiment de désillusion est très profondément ancré dans toutes les sociétés post-communistes et constitue en ce début de XXIe siècle un appui de poids pour l'idéologie néo-propriétariste et plus généralement pour une certaine forme de conservatisme économique. Dans le cas particulier de l'Europe de l'Est, ce facteur général est en outre renforcé par la petite taille des pays en question en termes de population comme de ressources naturelles, ce qui limite les possibilités de mener des stratégies de développement autonome. Par comparaison, la Russie et la Chine ont des dimensions continentales qui leur permettent de se lancer dans des projets politiques qui leur sont propres, pour le meilleur ou pour le pire. Les pays d'Europe de l'Est sont en outre intégrés à l'Union européenne, un espace économique qui ne pratique aucune politique commune en matière de fiscalité ou de réduction des inégalités, et au sein duquel les forces de la concurrence fiscale entre États membres limitent fortement les velléités de redistribution, et où les plus petits pays sont de facto incités à devenir des quasi-paradis fiscaux. Ces différents facteurs concourent à expliquer pourquoi les partis de type socialiste ou social-démocrate ont quasiment disparu de l'échiquier électoral en Europe de l'Est, à l'image de la Pologne, où le conflit politique oppose dorénavant les libéraux conservateurs de la plateforme civique, PO, et les nationalistes conservateurs du parti Droit et Justice, PiS. Les deux partis sont relativement conservateurs sur le plan économique, et en particulier sur la question de la progressivité fiscale, mais le PO se présente comme pro-européen, alors que le PiS fait vibrer la corde nationaliste. Pour cela, il est offusqué de voir la Pologne constamment traitée, selon lui, comme un pays de seconde zone. Surtout, le PiS prend la défense de ce qu'il considère être les valeurs polonaises et catholiques traditionnelles, par exemple sur l'interdiction de l'avortement ou du mariage homosexuel, le refus d'admettre la moindre complicité polonaise concernant la Shoah et le moindre antisémitisme polonais, quitte à criminaliser les chercheurs rassemblant les preuves du contraire, la reprise en main des médias et de la justice, menacée selon le PiS par les valeurs libérales, et l'opposition intransigeante à toute forme d'immigration extra-européenne. De ce point de vue, la crise des migrants de 2015, quand l'Allemagne adopta temporairement une politique relativement ouverte vis-à-vis des réfugiés venus de Syrie, constitue un moment important et révélateur de cette recomposition politique. Elle permit à un courant politique comme le PiS de s'opposer vigoureusement au quota de réfugiés envisagé un temps par les dirigeants européens, et par là même l'occasion de stigmatiser le PO, dont l'ancien leader Donald Tusk est devenu président du Conseil européen, comme inféodé aux diktats de Bruxelles, Berlin et Paris. Dans le même temps, le PiS tente, non sans succès, de se présenter comme un meilleur défenseur des classes populaires et moyennes, en promouvant des politiques sociales redistributrices comme les allocations familiales et en stigmatisant la rigidité des critères budgétaires bruxellois. Au final, le positionnement idéologique du PIS s'apparente par certains côtés à une forme de social-nativisme, au sens où nous l'avons déjà rencontré avec le Parti démocrate dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, même s'il existe de nombreuses différences, à commencer par la désillusion post-communiste. Ce qui est certain, c'est que ce type d'affrontement entre nationalistes conservateurs et libéraux conservateurs, que l'on retrouve dans une large mesure en Hongrie et dans les autres pays d'Europe de l'Est, n'a pas grand-chose à voir avec le conflit électoral gauche-droite traditionnel entre sociaux-démocrates et conservateurs observé en Europe occidentale et aux États-Unis pendant une grande partie du XXe siècle. Nous reviendrons de façon détaillée dans la quatrième partie sur ces transformations politico-idéologiques qui me semblent essentielles pour comprendre l'évolution des inégalités et les possibilités de reconstitution à l'avenir d'une coalition égalitaire et redistributrice. À ce stade, notons que ce clivage entre libéraux conservateurs et nationalistes conservateurs n'est pas simplement une curiosité de l'Europe de l'Est post-communiste. Il s'agit d'une des trajectoires possibles vers lesquelles la structure du conflit politique et électoral pourrait se diriger à l'avenir dans un grand nombre de démocraties électorales occidentales, comme le suggèrent plusieurs évolutions récentes, aussi bien par exemple en France et aux États-Unis qu'en Italie. De façon générale, il s'agit d'une des formes que peut être amené à prendre le conflit idéologique dans des sociétés où l'on ferme l'horizon de la réduction des inégalités socio-économiques et où l'on ouvre l'espace des conflits identitaires. Seule la construction d'un nouvel horizon égalitaire à visée universelle et internationaliste peut permettre de sortir de ces contradictions.